on rentre dans une connaissance de la vérité pour la connaissance de la vérité. Non, on rentre dans la connaissance de la vérité parce qu'on cherche à retrouver les sources de l'homme, les sources de notre vie humaine. C'est ça la philosophie. Et ceci, non pas à partir de théories ou de volonté de sortir d'une situation d'échec, mais c'est un désir et par amour pur de la vérité. Il se trouve que la vérité, elle est indissociable de l'un. La vérité, il n'y en a qu'une. Elle est indissociable de l'un. Et c'est pour ça que cette attention à l'un, nous qui vivons dans cette dispersion de l'éclatement de l'innocence divine depuis la conception, nous qui vivons cet un uniquement à titre de d'attraction nostalgique, nous cherchons la vérité, parce que chercher la vérité, c'est pas du tout pareil qu'avoir des certitudes. Il faut, par rapport à cette source d'amour qui est en nous, pour qu'elle soit libre, il faut que nous puissions la toucher en toute vérité. Regardez la différence qu'il y a entre deux grandes philosophies. La philosophie où on cherche des certitudes, des évidences. Ça, c'est faux. Descartes, Leibniz, Hegel cherchent une certitude. Et c'est pour ça qu'on va utiliser des méthodes. Et comme la seule méthode pour avoir une sécurité dans la certitude, ce sera de ne pas partir de la réalité qui nous échappe toujours, ce sera de partir de l'idée. Et alors à ce moment-là, on développera un système dialectique, on développera l'idée dans une logique totale qui nous mettra dans une ambiance de certitude. Mais à ce moment-là, on sera envahi, on sera tyrannisé, si je puis dire, par l'exclusion de cette source de vérité. C'est pour ça que la recherche de la vérité, c'est toujours la recherche d'une certitude, va impliquer un certain type de méthode de connaissance, voyez, de vérification, etc. Et on ne cherchera plus la vérité, puisqu'on sera installé dans une idéologie, dans une dialectique, dans une critique. Sera toujours duel. La recherche de la certitude, toujours duel, parce que en dessous, il y a le doute, et puis vous savez, l'enveloppement du doute, qui est comme. Le doute n'est pas supprimé, mais le doute est simplement enveloppé dans une ambiance de certitude, grâce à la méthode. Hein? Si vous voulez résumer Descartes, c'est ça. Hein? Le discours de la méthode. Descartes, dès qu'il y a une méthode. Faire attention, très attention. Alors, on a besoin, c'est par nostalgie qu'on a besoin de cette ambiance de certitude. C'est nostalgique, ça. Alors, il y a la différence qu'il y a entre ça et puis la recherche de la vérité. La recherche de la vérité, c'est tout à fait autre chose. Par la recherche de la vérité, tu recherches la vérité. Tu la recherches parce que tu sais qu'elle existe. Tu as touché dans un jugement d'existence le fait que tu existes, et ça, c'est quelque chose de très très fort, de voir l'existence, l'être. Et quand tu rentres dans l'existence de ce que tu es, en tant que tu existes, tu aperçois qu'il y a une consistance absolument plus grande que dans la consistance de ta vie. La vie n'a pas grande consistance. La vie, ça change. Comme disait Héraclite. Tandis que l'existence, l'être, quand je touche en moi l'être, et je vois cette consistance du fait que j'existe, que je reviens à ce fait que j'existe. Que la vie soit là, ou que la vie s'envole, on s'en fiche complètement. Pas désespéré, parce que la vie change de direction. Parce que la vie se corrompt, ou parce qu'il y a une exaltation de la vie, ça ne change rien. Mais le fait que j'existe, voyez, voir la consistance dans ce fait qu'il y a l'existence, j'existe. Et je m'aperçois de plus en plus que ma vie n'a pas grande consistance, l'âme n'a pas grande consistance. C'est vrai, on est des êtres changeants et corruptibles à cause de la vie. Mais du côté de la substance, du côté de l'être, du côté de l'existence, plus on cherche à saisir, et à, plus on cherche, j'ai bien dit chercher, à saisir à l'intérieur de ce poids subsistant de l'être, sa consistance substantielle, sa consistance intérieure, plus je découvre la nécessité. C'est une nécessité de chercher le principe de cette consistance, de cette subsistance, de cette densité, de cette unité de l'être. Et je suis amené à découvrir qu'il y a quelque chose d'absolument parfait spirituellement, métaphysiquement, substantiellement dans le fait qu'il y a l'être et j'existe. Et je suis amené à chercher, à découvrir, à toucher l'existence de l'être premier. C'est une fois que j'ai découvert, que j'ai touché l'existence de l'être premier, que je peux revenir à mon origine vitale. Et que je peux retrouver la source de ma vie. Et à ce moment-là, je peux porter mon attention sur l'un. Celui, vous comprenez ce que je veux dire, j'espère que vous voyez, hein. Il y aurait une manière dialectique de porter son attention sur l'un. La recherche de la vérité est quelque chose de très très fort. Et la métaphysique de l'un est quelque chose de très très fort. Mais regardez bien les deux grandes voies d'accès à l'attention à l'un. Sans laquelle il n'est pas possible qu'il y ait une attention à l'autre. Et s'il n'y a ni attention à l'un, ni attention à l'autre, alors à ce moment-là, comment puis-je contempler la vérité que je cherche sans cesse? Comment puis-je m'en nourrir? Comment puis-je en vivre? Et comment mon amour sera-t-il vrai? Et comment mon amour sera-t-il personnel? Ce n'est pas possible. C'est important de ne pas se tromper dans la recherche de la vérité sur l'un. Or, dans la recherche de la vérité sur l'un, vous le savez, comme moi, qu'aujourd'hui, les grandes mystiques, les grandes philosophies, les grandes cultures, les grandes pédagogies du XXIe siècle s'appuient beaucoup dans cette direction de la recherche sur l'un. Pourquoi? Parce que dans la mystique de l'un, on retrouve toutes les mystiques sans exception. Les mystiques islamiques, les mystiques chrétiennes, les mystiques des mystères d'Éleusis, les mystiques égyptiennes, toutes les mystiques. Les mystiques hindous, les mystiques bouddhistes, là. Là, c'est l'œcuménisme radical, ça. C'est pour ça que. Là, ici, on est sûr d'être dans la fameuse tolérance. Alors, on n'a plus d'ennemis. Alors, c'est une espèce de court-circuit extraordinaire de la charité, de l'amour et du cœur, et de la vie aussi, dans sa source, parce que on va pratiquer la charité par l'intelligence, vous comprenez ? La tolérance, c'est comme je ne peux pas aimer, je vais pratiquer la charité. La tolérance, c'est ça, c'est la charité de l'intelligence. Et je demande à mes oreilles de voir. Je demande à mes yeux de savourer un mets. Je suis désolé. L'intelligence n'est pas faite pour pratiquer la charité. L'intelligence, elle est faite pour chercher la vérité. C'est ça. Et elles sont nourries, n'est-ce pas ? Et là, c'est cette approche de l'un, voyez, qui se procède par une méthode, la dialectique, procède directement de ma conscience dispersée, éclatée, la conscience de moi-même est dispersée, éclatée, et je veux remonter, parce que j'ai quand même des odeurs de l'un, j'ai des nostalgies de l'un, et je vais remonter à l'un, dans la dialectique, dans l'approche dialectique. Petit à petit, je vais essayer de nier de plus en plus ce qui me divise, qui m'éclate, ce qui fait que je suis dispersé, ce qui fait que... Vous voyez ? Et c'est la fameuse méthode dialectique qui me permet... Mais ça, je ne peux y arriver, comme vous le savez, que par une espèce de montée qui procède à la fois d'une intuition très profonde, d'une nostalgie que nous avons déjà vue, donc je ne veux pas revenir dessus, mais une nostalgie radicale qui est en nous, mêlée en même temps à une dialectique, donc à une démarche rationnelle. Et du coup, le résultat, c'est que j'aboutis à l'un, voyez, mais j'y aboutis par, finalement, au total, par une démarche, finalement, qui est logique, qui est méthodologique, c'est pas méthode. Ça vient méthode, ça vient du grec odos, hein, la voie. C'est une métavoie, méthode. C'est une métavoie. J'ai pas de chemin pour arriver à l'un. Alors, je cherche une métavoie à partir de mes nostalgies et je m'appuie sur la dialectique. Bon, ça vous dit rien, évidemment, de s'appuyer. Mais ça fait rien. J'ai pas envie, du reste. J'ai hésité, du reste, à le faire. Je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être que je leur dise, que je leur lise quelques Énéades de Plotin. Merveilleux. Il faut avoir lu les Énéades de Plotin. Il faut les avoir lus pour comprendre ça. Ce qu'on fait dans l'éloge initiatique, c'est ça. Le retour à l'un par la voie dialectique. Méthodologique. Donc, c'est une méta-voie, puisque je n'ai pas de voie concrète, réaliste, logique. C'est une logique par la voie négative. Je nie tout ce qu'il y a en moi de multiplicité. Et je reviens à l'un. Je m'aperçois que l'un, c'est au-dessus de mon être. C'est au-dessus de mon intelligence. Je participe à l'un. Et l'un est source de mon intelligence, source de mon être. Et l'un est au-dessus même du bien. C'est Dieu, quoi. Et finalement, je ramène finalement l'un à être Dieu en moi. La source de nostalgie, c'est l'un. Je touche l'un, mais l'un, je le trouve en moi, comme en dessous, au-dessus, transcendant, j'allais dire, le point de vue donc de l'intelligence, le point de vue du nous, le point de vue de la vie, le point de vue de l'être même. C'est au-dessus, c'est en dessous, c'est Dieu. Autant dire que je suis Dieu. Ou du moins que j'ai. Je le possède. Dieu est la source de mon être et c'est moi qui l'enfante, c'est moi qui le porte, c'est lui qui me porte. Mais vous voyez, c'est nostalgique de dire ça. C'est par une voie dialectique, c'est pas par une voie contemplative, c'est par une voie de recherche. C'est à cause d'une mémoire perdue. Il y a une trace de l'un. Tandis que, vous voyez, le souci de la recherche de la vérité que nous avons essayé d'avoir toute cette année, hein, c'était de comprendre que c'est très bien que l'un existe, qu'il y a en nous cette nostalgie de l'un, qu'il y a l'oubli de l'un. Qu'il faille absolument cette attention à ce qui en nous est absolument, totalement, éternellement un. Mais attention, dans ce lien qui est entre mon corps, mon âme, mon esprit, mon intelligence et mon cœur. Ça, c'est tout à fait indéniable. Mais regardez bien comme c'est important de voir que il faut que simplement que je démarre de ce fait que, bien sûr, que le point de vue de l'un est au-dessus, à quelque chose de beaucoup plus fort que l'être que je touche dans le fait que j'existe. Parce qu'il faut que je rentre dans la consistance même de l'être. Donc l'approche métaphysique, vous voyez, qui démarre du jugement concret d'existence, qui ne veut pas partir des nostalgies, qui ne veut pas utiliser l'imaginaire, qui ne veut pas utiliser l'ordinateur qui est en moi, la logique, qui ne veut pas utiliser non plus trop le point de vue donc de l'intuition, parce que l'intuition n'est pas une recherche de vérité, c'est une recherche de soi, c'est une recherche de son propre génie, l'intuition. Quand quelqu'un qui ne veut naviguer qu'avec son intuition, c'est qu'il ne veut s'appuyer que sur la recherche de sa source de génie. C'est un génie. Toute la démarche de l'intériorité artistique, c'est ça, d'être génial à ce moment-là. Il y a une intuition, à ce moment-là, ça fait un artiste étonnant. Non, non, je veux partir du réel. J'existe. Et de la consistance même de l'être, du Est qui est en moi, je saisis en lui que l'être est indivisible. J'existe, c'est indivisible. Il n'y a aucune division en moi dans le fait que j'existe. Et quand je touche le point de vue de l'être dans le Créateur, dans celui qui est autre que moi, celui que Dieu met proche de moi, dans l'univers qui est là, je m'aperçois que le Est a quelque chose d'indivisible. L'existence est indivisible. C'est une propriété de l'être. Et quand je découvre, comme nous l'avons fait l'année dernière, le point de vue de l'ousia et de l'énergeia, c'est-à-dire de la substance, cette densité extraordinaire, qui fait que je vois à quel point, mais à l'infini, ma vie est sans consistance. Et que mon être a une consistance subsistante, substantielle, l'ousia. Je le découvre par induction. Ce principe à l'intérieur du Est de la substance. Et je m'aperçois deuxièmement que l'être a quelque chose d'infiniment, d'absolument et de perpétuellement et de constamment aérien, si je puis dire. C'est l'énergeia. Et je découvre l'induction de l'acte. C'était il y a un an, ça. Hein? On a passé un an là-dessus. Très intéressant, très nécessaire. À partir du moment où j'ai découvert que par l'ousia, par la substance, l'ousia est un principe, je ne peux pas aller plus loin que ce principe à l'intérieur de l'être, du point de vue formel. Il y a une densité de lumière dans l'être. Source de substance. Formellement, il n'y a rien de plus fort. Il y a quelque chose d'aérien, il y a quelque chose d'actuel, il y a quelque chose de parfait, absolument, c'est l'acte. Du côté final, du côté de la plénitude, de la finalité, de la cause finale, il n'y a rien de plus fort que l'acte, l'énergeia. L'énergeia. Très bien, ça c'est ce que nous avons vu. Mais je m'aperçois que ça c'est un principe du côté de la cause finale, je ne peux pas aller au-delà. C'est un principe, c'est une source. Tu ne peux pas aller plus loin qu'un principe. Une fois que tu l'as induit, voilà, tu sais que tu ne peux pas aller plus loin. L'ousia est un principe selon la forme, l'énergeia est un principe selon la fin, et puis l'être, tu le touches dans un jugement d'existence. Les trois que tu as touchés en métaphysique, tu constates que les trois ont pour propriété que tu ne peux pas aller au-delà. L'être est indivisible, il est parfaitement simple. Il n'y a aucune composition dans l'être, dans le fait que je suis sexy. Aucune composition. C'est pour ça que je ne peux pas lui faire de dialectique. Tu ne peux faire de la dialectique que quand il y a une composition. Je peux découvrir un principe, mais je ne peux pas aller au-delà du principe du point de vue de la contemplation formelle à l'intérieur de l'être. Je ne peux pas aller au-delà de l'ousia. Donc, il y a quelque chose, il y a une propriété même du point de vue de la substance qui fait qu'il est un. Il y a une propriété du point de vue de sa perfection, l'acte. Actuellement, j'existe dans l'énergéia de l'acte, si je puis dire. Il ne faut pas dire comme ça, mais c'est pas grave. Et là, je m'aperçois que du point de vue final, je ne touche plus. Il y a quelque chose qui est unique dans le point de vue de la perfection du Est qui est en moi. Vous voyez ? Et de là, effectivement, c'est à cause de ça que m'appuyant là-dessus, m'appuyant sur l'acte, je peux remonter par tout ce qui est moi-même, actuation, je peux remonter notamment par tout ce qui est en moi-même actuation de mon intelligence contemplative, je peux toucher et démontrer l'existence de l'acte pur et donc de l'être premier. C'est comme ça qu'on fait la fameuse démonstration philosophique de l'existence du Créateur, fameuse démonstration qui, vous savez, est tellement solide que le pauvre Kant s'est épuisé à dire que ce n'était pas possible. Et puis il a été obligé de dire que finalement, bon, non, la cause était très vénérable. Il a passé toute sa vie à essayer de démolir la démonstration de l'existence de l'être premier. Hegel aussi, le pauvre, eh bien, il n'a pas réussi, bien entendu. Lui, il démarre uniquement sur la dialectique. C'est une fois qu'on a découvert l'existence de l'être premier que je porte mon attention à l'un. Vous voyez, la démarche tout à fait différente. Vous voyez, parce que moi, je veux partir de la réalité. Je ne veux pas partir de ma nostalgie. Et je porte attention à l'un, je vois que l'être premier, lorsqu'il me crée dans le point de vue de l'être, lorsqu'il fait mon être, le fait que j'existe, est sous la dépendance totale. Il participe. Voilà pourquoi l'être est indivisible. Parce que mon être à moi est une participation à l'être premier. Je suis sous la dépendance totale de l'être premier. Et à ce moment-là, je m'aperçois que quand je remonte, j'ai trouvé ma source du point de vue de l'être. Et comme elle est indivisible de ce que je suis dans le réel aussi, dans mon pos. Vous vous rappelez qu'on avait fait ça avec Pascal ? Dans mon pos. Dans ma manière d'exister, mon existence vit, mon existence se réalise dans le point de vue vital. Donc je découvre que la source de mon être existentiel, dont je dépends actuellement, c'est l'être premier. Et je redécouvre donc ma vie dans sa source. Et c'est là que je peux porter attention à l'un. Donc vous voyez les deux démarches, être, porter toute son attention à l'un. Comme c'est très... Vous imaginez à quel point c'est important, parce que quand je fais comme ça, je porte attention à l'un, et du coup, je peux, par la mémoire, si je puis dire, par ma vie contemplative, non pas par la certitude, mais par la vérité de ma sagesse réaliste, je débouche la source qui s'est bouchée de mon innocence d'origine et je redécouvre l'odeur de l'un. Et donc toutes les forces qui s'étaient perdues, qui s'étaient troublées, qui avaient été oubliées, et aussi toutes ces voies directes de l'introduction dans l'origine dont j'avais peur, c'est pour ça que je ne peux le faire en gnoséologie que par le point de vue du nom, de la dialectique. Vous comprenez pourquoi? Parce que j'ai peur. Alors c'est non, non, non. On l'a vu à la Canourgue. C'était évidemment la signature d'une philosophie qui n'a pas résolu son problème psychologique de contre-dépendance. C'est une métaphysique, la métaphysique des loges, la métaphysique rosicrucienne, la métaphysique de l'un, la métaphysique est une métaphysique d'une adolescence non résolue. Mais si je suis adulte, vous voyez, si je suis réaliste, si je m'accepte tel que je suis pour toucher le point de vue du fait que j'existe, toucher cette dépendance, voir, toucher, chercher d'abord, voir, toucher l'être premier et vivre de cette dépendance actuellement. Et de là, porter attention à la paternité vivante de Dieu qui m'a originé dans le point de vue de la vie. Je retrouve l'odeur de l'un. Et à ce moment-là, c'est spirituellement, c'est pas le point de vue de la substance, c'est pas le point de vue de l'acte, c'est pas le point de vue de ma conjonction actuelle à la source, que cette odeur de l'un peut me faire me rétablir dans mon identité tout à fait originelle. Et de là, ma liberté peut reprendre. C'est pour ça que pour le pape, par exemple, pour le pape Jean-Paul II, il dit qu'il y a trois dimensions dans l'homme. Il y a l'intelligence qui cherche la vérité, il y a l'amour qui cherche l'autre et qui est, j'allais dire, la vocation de l'homme. L'homme est la seule réalité qu'on constate dans notre univers qui ne trouve son accomplissement que dans le dépassement total de lui-même dans un autre. Toutes les autres réalités, la colombe, l'aigle, même s'il est très fidèle à la petite femme aigle, parce qu'il paraît que parmi les animaux les plus fidèles, c'est les aigles. Entre mâle et femelle. Eh bien, c'est pas du tout l'attention à l'autre. Parce que ça fait partie d'une nécessité de l'espèce. Tandis que dans l'amour, ce n'est pas une nécessité de l'espèce. La preuve. La preuve, petite main. Rosemary, c'est une preuve, vous voyez. Ce n'est pas une nécessité de l'espèce. Nous sommes finalisés dans le Christ sur la croix, qui vient nous rappeler, voyez, que l'amour est la seule chose qui fait que on est tout à fait relatif à un autre. Il ne s'agit pas d'accomplir ces nostalgies, il s'agit d'aimer. De toucher la vérité. Deuxième dimension. Troisième dimension, pour le pape, la liberté. La liberté, c'est d'être capable de chercher la vérité et d'aimer. Mais pour être capable de chercher la vérité et d'aimer, il faut porter attention à l'un, à sa source, et à toutes les énergies qui permettent à mon acte substantiel d'être de se réaliser dans l'acte vital. Ça, vous avez le résumé de Jean-Paul II, là. En tant que philosophe, parce que vous savez que c'est la première fois dans l'histoire de l'Église que le Saint-Seigneur a mis sur le trône de Pierre un philosophe. Alors, c'est merveilleux. La liberté. Vous voyez, moi, je dis toujours intelligence, volonté, mémoire de Dieu. Memoria Dei. C'est la même chose, hein. Donc, portez attention à l'un. Tel est le commandement. Shema Israël, Adoshem, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Echad. Le Seigneur est un. Portez attention à l'un. Voilà la source. Vous voyez, la grande métaphysique. Voilà ce que nous avons fait cette année. À partir du moment où on a touché la réalité même de l'un par l'adoration qui revient sur notre origine vitale, jusque dans l'aspect originel du corps, jusque dans l'aspect originel de l'intelligence et de l'esprit, jusque dans l'aspect originel de la vie. Donc l'aspect originel du corps, c'est, vous le savez bien, donc c'est l'innocence divine. L'aspect originel donc de la vie, c'est la don de la paternité de Dieu sur nous, et l'aspect originel donc de l'esprit, qui fait que nous sommes originés dans un oui éternel qui a fait notre liberté dans le don de la recherche et de la soif de vérité éternellement. Voilà les trois grandes actes, si vous voulez, substantiels, qui ont originé le premier instant de notre vie, dans la main, et qui sont imprimés, comme dit saint Thomas d'Aquin, comme une lumière éternelle imprime le corps et l'âme primordiale. Une impressio, inditio, en latin, inditio, c'est une dictature intérieure, un verbe intérieur dans le corps. Ce que dit saint Jean, le verbe de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, a illuminé toute personne à l'instant où il vient dans ce monde. Nous avons tous été pris dans ce oui éternel du chemin, du chemin, du me voici de Jésus, du me voici de Marie, du me voici d'Isaac, quand il doit partir avec Abraham, du me voici de Joseph, quand Jacob lui demande d'aller se livrer à ses frères dans le désert, qui le détestent. Me voici. Ce oui éternel pour se livrer, se donner. Non pas chercher à aimer, voyez, non pas pousser nos nostalgies d'amour dans la direction dialectique, mais, voyez, non pas supplier notre cœur d'aimer, mais se donner soi-même. Être donné, trouver cette source dans le don, et se donner, tout simplement. Et pas supplier. La prière, par exemple, voyez, de la prière naturelle, de l'union, de l'attention à l'un, cette source dans le oui éternel du don, fait qu'on ne supplie plus, on est donné. À ce moment-là, le visage de l'homme réapparaît, son sourire revient, sa liberté devient aérienne, substantielle. C'est pour ça que c'est si important. Une fois qu'on a retrouvé cette mémoire de l'un, qu'on la réactualise tout simplement dans cette paternité toute simple et toute petite de Dieu qui est en nous, alors à ce moment-là, on peut revivre cet éclatement de l'un, revivre avec lui, revivre avec le Créateur, avec le Père, revivre avec lui cet éclatement de l'un que nous avons vu. C'est tous ces aspects extraordinaires, ces choix de vie, ces choix de lumière, ces choix qui sont tout à fait originels, ces choix de nuit, ces choix de relation, ces choix d'amour, et ces choix aussi de mort, hein, on est donc d'accord, hein, ces choix de vide, ces choix de néant aussi, hein, c'est tout, on a vu les 14 éclatements de l'un. Revivre, repasser avec le Créateur depuis notre origine, mais actuellement dans ces éclatements de l'un. Ce que j'aurais voulu regarder pour terminer simplement avec vous, mais c'est juste une voie d'accès, puisque vous avez, c'est une proposition que je veux vous faire si vous voulez un petit peu travailler personnellement cette question, comment à partir de ce ressourcement dans l'attention de l'un, cette replongée dans l'innocence initiale de l'un, qu'est-ce que, au fond, comment faire, pourquoi ne pas prendre le Christ? Vous voyez, là je sors de la philosophie maintenant. Pourquoi ne pas prendre le Christ? Pourquoi pas prendre Jésus? Et je vous propose simplement comme travail personnel, puisqu'on ne va pas se voir pendant 4 ou 5 mois. Comme travail personnel, reprenez donc le tableau à cette colonne que je vous ai donnée et essayez de regarder tous ces éclatements de l'un que nous avons vus et de revoir comment le Christ, au fond, se donne à nous, parce que le Christ est quand même bon pour nous, hein. Donc, un, en vert. Deux, en bleu. Bon, deux en bleu. Trois, le Christ. Le Christ se donne à nous à travers nos fêlures, à travers nos péchés. Il remonte dans l'aspect négatif de nos illusions. Il saisit en nous ce que nous lui donnons dans l'état actuel de nos brisures, de nos éclatements intérieurs. Et il va vivre en nous là où nous ne vivons pas de l'un, ni de la recherche de la vérité, ni de la recherche de l'amour. Donc il faut que nous avons une double exigence pour nous. La première, c'est de retrouver par l'adoration naturelle la paternité naturelle de Dieu, du Créateur, pour retrouver l'odeur réaliste de l'un. Et en même temps, demander, en faisant oraison à Jésus, de prendre en nous, dans les dimensions où l'éclatement de l'un nous a mis, par bonheur d'ailleurs, il faut bien le dire, puisque c'est cet éclatement de l'un qui va permettre de spécifier notre vocation à la sainteté. Sa vocation à la sainteté consiste simplement à laisser toutes les places vides, tous les abîmes de néant, de mort, de doute, et de nuit, etc., les faire habiter par le sang du Christ, la présence de Jésus, la présence du Verbe, du Dieu réellement présent, du Dieu réellement présent dans l'humanité qui est la mienne, dans l'humanité qui est totale, dans l'humanité qui est absolue, dans l'humanité qui est en tous. C'est le Créateur qui reprend de manière sublime tous les éclatements de l'un et tous les abîmes dans lesquels nous ont plongé en plus tous les ravages, si je puis dire, de ceux qui mettent le primat sur la négation. Alors, reprenez ce... Vous voyez, par exemple, nous avons regardé qu'à cause de ce fait que nous avons fait, nous avons été tout reçus comme don d'amour. C'est à partir... Dieu s'est donné, le Verbe s'est donné dans notre premier instant, totalement à nous. Il nous a pris totalement. Regardez, il vient dans l'Eucharistie, substantiellement. C'est une transsubstantiation. Et je n'hésite pas, moi, à dire... Bon, on demandera au Saint-Office de rectifier si nécessaire. Mais je n'hésite pas à dire que le Christ, le Verbe de Dieu, vient... transsubstancié, c'est pas justement transsubstancié, transactué, c'est pas transactué non plus, ce n'est pas, vous voyez, il vient transunifier ma première cellule. Le Verbe de Dieu illumine tout homme lorsqu'il vient dans ce monde. Et dans ma première cellule, quand j'ai commencé à vivre, le Verbe de Dieu était, pour ainsi dire, plus mon un d'éternité que mon propre unité substantielle. Ça, c'est absolument clair. Il s'est donné totalement. Le Père a donné au Verbe d'être totalement un seul Dieu. Et dans l'acte créateur, il faut comprendre quand le Verbe illumine tout homme lorsqu'il vient dans ce monde, ce don d'amour est... mais dépasse complètement, évidemment. C'est un don. Et je le... quand je le reçois, je ne reçois rien du tout. Vous voyez, parce que l'accueil du don qui est le mien, j'y suis pour rien. Il n'y a aucune prédisposition. C'est le don lui-même qui permet l'accueil ultérieur. C'est le contraire, vous voyez, de ce qui se passe ordinairement. Et c'est évident qu'à partir du moment où je suis laissé à moi-même pour vivre de l'accueil de ce don, lorsque ce don ne détermine plus tout dans l'amour du oui éternel, à ce moment-là, vous voyez, regardez la nostalgie que ça crée perpétuellement jusqu'à ce qu'on rentre à niveau dans la subsistance mystique, dans le Verbe, en pleine lumière de la vision béatifique. Tant qu'on ne sera pas arrivé là, il y aura cette nostalgie du Verbe de Dieu qui illumine mon corps, mon cœur, mon âme, mon esprit actuellement dans un amour éternellement lumineux, vous voyez, personnellement et divin. Et ceci dans le temps, dans l'instant de mon temps initial source. Dans mon attention à l'un, je retrouve cela. Mais l'éclatement que ça a produit, vous sentez bien que si... d'un seul coup, je n'ai plus cette chose extraordinaire qui a déterminé ce don. Il ne reste plus que cette capacité d'accueil sans le don. C'est évident que je peux faire un choix. Le choix de l'embryon, du tout, enfin, ça peut être un choix. C'est un des choix. Choix d'amour ou bien choix de repli. Regardez, il n'y a plus que le don, il ne me reste plus qu'avec l'accueil, mais il n'y a plus le don dedans. Peut-être le choix de repli. Nous avons vu ça. Dans la dimension amour, choix du don, choix du repli. On n'est pas coupable de ça. On est responsable, mais on n'est pas coupable. Elle va peut-être redevenir ministre, justement, celle-ci. Qui n'est pas coupable, mais qui est responsable. Alors, le Christ est venu s'incarner et... cet effacement du don, il l'a vécu dans le sépulcre. Donc revivre en raison de cet amour qui, dont l'absence actuelle dans le don m'a tellement perturbé que j'ai décidé de me replier sur moi pour garder le peu que j'avais, c'est-à-dire la mémoire que j'en avais, et puis surtout, je veux dire ce oui éternel, qui est un petit peu comme le premier cri de révolte d'amour contre Dieu, si je puis dire, ce qui est possible pour certains, c'est pas tous, hein. Pas dire que cette liberté n'existe pas. La liberté est originée là. Le Christ est venu et il a donné sa vie. Il est rentré dans le sépulcre. Il est rentré dans cet état où le don vivant de l'amour éternel dans sa chair avait disparu. Donc, reprendre dans notre cœur, en gérant nos émotions d'abord, bien entendu, hein, gestion des émotions, la grâce qui est cachée en dessous. Je retrouve mon cœur et là, je rejoins Jésus, le Verbe de Dieu, dans le sépulcre, qui vit cet état où, librement, il vit de ce repliement du corps de l'homme dans le tombeau, en attendant. Dans une attitude d'accueil d'amour, qui n'attend, alors qu'il pourrait faire quelque chose par lui-même, il attend tout de l'autre. Il attend la résurrection. Le Christ a eu 7 grands effacements dans sa passion. Et il a eu 7 grandes initiatives. Chacun de ces effacements, chacune de ces initiatives, qui structure la passion de Jésus, sont là pour qu'on puisse reprendre en Jésus cet état qu'il nous donne absolument de lui-même, corporellement, spirituellement, de manière vivifiante. Et donc il faut retrouver Jésus crucifié. Et vous regarderez simplement, vous ferez ce petit parallèle, C'est un petit voilà le petit travail que je vous propose. Donc, entre les éclatements de l'un dans les sept dimensions de l'homme que nous avons vu les dernières fois, et de regarder la correspondance dans notre manière de vivre du Christ, comment lui a vécu ces sept effacements pour effacer les effets du péché originel et les sept initiatives pour effacer et combler les béances de notre péché personnel. Et donc, reprendre Jésus. Vous voyez, bon, le tableau, vous l'avez, n'est-ce pas? Vous ne l'avez pas jeté à la poubelle, j'espère? Bon. Celui qui l'a jeté à la poubelle, qui vient de me voir à la sortie, qu'on cause un peu. Quels sont les sept effacements du Christ dans sa passion? Les sept effacements, c'est d'abord le sépulcre. Dans le sépulcre, Christ est totalement effacé. Le don qu'il a fait de lui-même a été si loin qu'il ne restait plus que cet effacement absolu du sépulcre. Cette attitude d'accueil qui est une attitude fondamentale d'amour. Je renonce, voyez, à cette nostalgie, je vais aimer au maximum, et du coup, je n'aime pas. Parce que j'aime avec mon génie, donc j'aime avec ma dimension artistique, au lieu d'aimer avec mon cœur, avec ma source d'amour profonde. Le deuxième effacement, c'est quand Jésus porte la croix au Golgotha. Et là, il y a une méditation de la croix que je supporte qui écrase les parties horizontales de son corps, la clavicule. Si profondément, vous le savez, que ça a amorti même l'os, n'est-ce pas? Ça a creusé dans l'os. C'est de la confidence des médecins, etc., c'est probablement, même certainement, la souffrance qui, du point de vue de la douleur physique, est de très très loin la plus importante de toutes les plaies que le Christ a reçues sur lui. La plaie d'épaule. Du point de vue de la douleur la plus intolérable qui soit, c'était celle-là. Parce que quand vous mettez des clous dans les mains, ça fait mal. Mais je ne vais pas vous faire un dessin. Là, on ne fait pas la philosophie de cette expérience. Ce serait très nostalgique de faire ce genre d'expérience. Mais n'empêche que Jésus, en portant cette espèce de croix, il prend cette croix pour... Il transforme profondément la signification, voyez, de tout ce qui est pesant sur la terre. Il l'enfonce dans les parties horizontales de son corps, dans une douleur extrême. C'est un effacement extraordinaire, vous voyez, parce que c'est Jésus qui a porté sa croix. Quand il a été dans la passion, son travail, du point de vue du corps, vous voyez, du point de vue ce travail spirituel de son corps, a été opérant, si je puis dire, jusqu'au Golgotha. Au Golgotha, c'est les autres qui l'ont crucifié. Mais dans le chemin de croix, c'est lui qui a fait ce travail. Il est allé du Gabata de Pilate jusqu'au Golgotha d'Adam. De la trahison jusqu'au péché originel. Il a fait ce travail du retour vers l'un. C'est ce grand travail que Jésus porte à croix. Il porte le poids de tous ces éclatements de l'un qui font qu'il y a quelque chose, il va vers cette espèce, on appelle ça, Saint Paul appelle ça dans les épîtres, vers sa kénose. Voilà le travail du Christ, le retour de vers l'un dans la kénose, dans l'anéantissement. De manière à effacer Il y a toutes les responsabilités des libertés profondes du péché originel qui fait qu'on a fait des choix de néant déjà 7, 8 mois déjà, avant la naissance. Choisir le néant. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a certaines formes d'art, vous voyez, certaines formes de... Quand on est pris dans les nostalgies hystériques où l'un n'est plus là, où Dieu n'est plus là, où l'humain n'est plus là, alors le travail et même l'art vont avoir des auteurs de néant. Et par exemple, le travail, ben on va faire des... toutes les puissances de travail vont être mises au service d'œuvres d'anéantissement. Toute cette puissance de travail, cette concentration, cette attention du travail, le génie de l'homme, c'est pour aller dans l'anéantissement de l'ordonnancement naturel du génome humain. Ou dans l'anéantissement, vous voyez, la bombe atomique. Ou si on faisait le calcul de tous les travaux industriels qui sont faits pour l'homme et ceux qui sont faits pour sa destruction, on serait très impressionné. Très, très, très impressionné. Le nombre de vaccinations qui sont faites dans le monde pour les enfants qui sont faites pour l'homme, et le nombre de vaccinations qui sont faites dans le monde et qui sont faites pour la stérilisation de l'enfant. Hein? On aurait bien des choses à révéler là-dessus. Je sais plus, j'ai regardé un petit article l'autre jour, c'était il y a 3 jours. C'était l'association Rockefeller qui avait exigé la banque donnée à ce pays. Il fallait qu'ils fassent vacciner tous les gosses. La moitié sont morts. Après la série de vaccinations, la moitié des gosses sont morts. La moitié. Vous savez, les séances de vaccination, attention, de plus en plus. Et c'est plus qu'une erreur.
Il y avait des erreurs en plus dans les dosages.
Ah, c'est en plus c'était dans le Figaro. Non, mais le travail consiste à faire quoi? Notre génie humain consiste à faire quoi? À transformer la matière existante, qui est une absence. Qu'est-ce que c'est que la matière en soi? Une matière en soi, c'est une absence de forme ou une insuffisance de forme. C'est de la glaise. Il n'y a pas une forme terrible. Déjà, la matière en soi, c'est une absence de détermination. Mais si on est très déterminé humainement, on va prendre cette glaise et on va en faire une forme splendide. À la place d'un tas de pierres, on fait une maison. C'est génial. C'est génial. Ben, c'est mieux que la taupe. Oui. La taupe, elle fait un trou. C'est mieux que le castor qui fait un barrage, vous voyez, bon. Mais c'est génial. Vous voyez, le travail, c'est toujours de nier dans la matière une forme naturelle pour lui donner une forme plus commode, plus géniale, plus splendide, plus belle. C'est ça. Le génie de l'homme, c'est pour ça. Au lieu de faire des sons discordants, hein, eh ben, on va faire une magnifique symphonie. C'est formidable, quoi. C'est génial. C'est génial. C'est ça le travail. Et c'est toujours le travail, c'est de nier une forme naturelle pour lui donner une forme humaine splendide, glorieuse, belle, agréable, utile quelquefois. Mais l'utilité, ça vient après. Là où c'est génial, c'est quand c'est beau, quand c'est plus parfait, quand c'est plus adapté à l'homme. Quand c'est plus adapté à la nature, quand c'est plus adapté au Créateur et à l'unité, à l'harmonie entre tous les éléments de la création, de la vie, de l'homme et de Dieu. Là, c'est parfait. C'est pour ça l'aspect le plus étonnant de l'art, c'est sûr, c'est quand ça devient. C'est les cathédrales, c'est formidable. Certaines cathédrales, tu mets en plus la musique, j'ai du violon. Une cantate de Rossini. Vaut mieux pas mettre du... Encore, je ne sois pas contre, hein. Vaut mieux pas mettre du... Comment ça...
Techno.
Bah, pourquoi ? Il paraît qu'en Angleterre, ils animent maintenant les messes anglicanes avec des femmes prêtres, mais plus du techno, vous voyez ce que ça donne là. Bon, après tout, c'est génial, hein, ça c'est le génie anglais.
Il paraît qu'il n'y en a que 500 000 finalement, c'est pas 50 millions, c'est pas
de
d'anglicans en Angleterre.
Ah bon ?
C'est d'ordre de 700 000.
D'ailleurs, c'est un
mille. Les musulmans vont être supérieurs en
Angleterre. Donc dans 20, dans 30 ans, ils sont plus que 50 000. Bon.
Je veux dire que c'est un phénomène très limité.
Ah, mais c'est. Parce qu'à chaque fois qu'on a mis des femmes comme responsables religieux d'une communauté religieuse, quelle qu'elle soit, c'est décimé. Alors, donc 10% au bout d'une génération, ils sont 500 000, 150 000, puis c'est tout. C'est un suicide. C'est pas parce que les femmes sont pas capables. C'est parce qu'elles sont pas fabriquées pareilles. Donc vous voyez bien que quand Jésus porte sa croix, cette odeur d'insatisfaction qui est en nous, parce que on voudrait follement que tout soit beau, on voudrait follement participer à être, que notre génie puisse s'exprimer, n'est-ce pas ? On voudrait tellement que tout soit transformé à notre image, à l'image de ce qu'il y a de beau, grand, vivant et lumineux en nous. On voudrait tellement, cet aspect artistique qui est en nous et qui nous donne toutes les forces du travail et de la transformation de l'univers. Et cette dimension de l'homme qui est en nous, qui s'est éclatée, c'est possible, dans des choix de néant. Hein. Ou au contraire, dans des choix de force, d'élan pour la transformation hein, de l'univers. À ce moment-là, il faut reprendre, si on voit qu'on n'a plus de force et qu'on est anéanti, dès qu'il s'agit de la question du travail, de notre génie pour mettre notre marque dans une communauté de travail, de notre persévérance dans l'approfondissement même de ce travail, pour en acquérir finalement petit à petit l'habitus spirituel artistique, pour que tout soit fait dans la beauté. Si on s'aperçoit, et on est tous certainement très fatigués de ce côté-là aussi, eh bien, reprendre Jésus qui porte sa croix le prendre avec nous, voyez, reprendre Jésus qui porte sa croix, qui de là où nous sommes revient en portant sa croix en nous de la trahison qui est la nôtre actuelle pour revenir au Golgotha d'Adam à l'un. Pour qu'il y ait cet effacement des choix de néant qui sont des choix embryonnaires, qui sont des choix d'enfance. Pourquoi est-ce qu'on est anéanti du point de vue de l'art ? C'est parce qu'on a l'impression d'être tout le temps, un traître à soi-même, la trahison. On est sans force, la lâcheté, Pilate. Vous voyez, ce chemin de croix, c'est quelque chose de très fort. Vous voyez, c'est un effacement. Jésus s'est complètement effacé. Au lieu de faire quelque chose de splendide, il a fait quelque chose qui a transformé la démarche inversée de l'homme. Il a transformé la nature, voyez, en la rendant belle par son anéantissement et par ses retrouvailles avec l'art, avec le Dieu unique. Dieu est un. C'est pour ça que quand il est arrivé à la fin du chemin de croix, eh bien, on l'a mis tout nu. On lui a enlevé tous ses vêtements. Il était tout nu. Terrible. C'est génial. Le troisième effacement, c'est Gethsémani. Quand Jésus est dans l'angoisse de Gethsémani, il vient effacer ce qui oui, dans ce lien qu'il y avait entre cette première cellule qui était la nôtre et l'âme vivifiante que Dieu nous donnait dans cette plénitude de vie à la fois temporelle et éternelle de sa présence paternelle. Dès lors que cette présence vivante du Père qui faisait l'unité totale, radicale, substantielle du corps et de l'âme spirituelle en nous. Dès cette présence disparaissait pour nous mettre dans la liberté de la recherche de la vérité, donc notre vie spirituelle, et qu'il y avait une incapacité absolue puisqu'il n'y a pas de possibilité de chercher la vérité quand tu es un petit blastomère. Et il y a des choix qu'on fait, vous voyez, ces choix extraordinaires. Alors, ou bien tu choisis. Oui, c'est souvent, il y a des gens qui, fondamentalement, il n'y a rien à faire. C'est rédhibitoire. Ça peut être volontaire, ça peut tenir à un péché personnel, ça peut aussi tenir à une conséquence du péché originel. Ça tient en fait aux deux. Non, parce qu'il y a une intensification. Le choix de chaos, ça, c'est sûrement un péché personnel. Le choix du vide. Parce qu'on est rempli par la recherche de la vérité, par cette attitude par laquelle il y a cette communication de la vérité sur Dieu, sur l'être, sur l'existence, sur la création tout entière. Et alors il y a ce vide. Et souvent, vous voyez, cette nostalgie où on fait ce choix de vide si profondément à l'origine, ce choix de vide est nécessaire pour qu'il y ait cette soif, quelque part, pour qu'en touchant le fond du vide, il y ait cette soif de revenir à la recherche de la vérité. Mais on peut rester dans ce choix de chaos et de vide. Souvent par rapport à la recherche de la vérité, la multitude des hommes, comme on dit, n'est-ce pas ? Comme disent les philosophes, la multitude des hommes reste dans le choix du vide. Ils pourraient rechercher. Ils en sont capables. Ce serait facile pour eux. Ce serait simple. Ce serait bon. Ça leur donnerait leur autonomie. Ça leur donnerait leur sécurité métaphysique, corporelle, spirituelle, intellectuelle. Ils seraient sur leur roc de l'âme. Mais Jésus a repassé cette angoisse du vide, cette anarchie du mensonge, il l'a repassé en lui et dans l'agonie de Gethsémani. Cet effacement. Il a effacé en lui cette plénitude de vérité pour traverser tous ces choix de vide qui sont en nous, les vivre avec nous pour les faire revenir à cette capacité, à cette soif toute pure, dans le vide, c'est-à-dire dans la capacité toute pure de l'intelligence de se nourrir de la vérité librement. Gethsémani. Vivre Gethsémani. Reprendre Jésus à Gethsémani. Contempler Jésus à Gethsémani. Relire le texte de l'écriture sainte, sacrée, immuable et nourrissante de Saint Luc à Gethsémani. Toutes les agonies de Jésus. Le sang qui éclate de partout. Et qui transpire, l'angoisse totale de Jésus, avant qu'on ne l'arrête. Alors, en retrouvant cette angoisse, on traverse la nôtre, et avec lui, miraculeusement, surnaturellement, théologalement, on retrouve les voies d'accès à la reprise de notre choix initial, en refaisant traverser toute notre vie jusqu'à aujourd'hui, en redécidant avec lui de vivre à travers l'angoisse de la recherche de la vérité. Alors, au lieu que l'angoisse devienne un empêchement, l'angoisse devient un calice qui s'élève, qui nous permet de nous élever dans la recherche de la vérité. On donne à l'angoisse une nouvelle signification dans la recherche de la vérité. On a l'anxiété
on est angoissé et on ne se couche pas tant qu'on n'a pas touché encore plus profondément quelque chose de la vérité le soir. On ne se couche pas, comme dit le prophète David dans le psaume, je ne me coucherai pas sans avoir regardé les profondeurs de la vérité qui sont en toi. Je ne mettrai pas mon corps sur ma couche. Je ne fermerai pas les yeux, je n'accorderai aucun répit à mes paupières. Voyez, c'est magnifique ça. Là, un autre effacement de Jésus, c'est il s'est effacé devant, ses disciples. Son autorité d'amour, son autorité naturelle, son autorité divine, son autorité humaine, eh bien, dans cette autorité, il parlait avec autorité, il était... Hein, si vous étiez avec Jésus, vous n'aviez pas tellement envie de faire un acte d'autorité sur lui. En disant, je vais t'expliquer, Jésus, comment ça marche, hein, un homme. Hein. Non. Eh bien, Jésus, lui, s'est effacé. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il a fait le geste du serviteur. Se laisser laver les pieds par Jésus. Vous voyez, contempler ce passage extraordinaire de Jésus qui se fait serviteur, c'est l'effacement, hein, et c'est juste à l'Eucharistie. À l'Eucharistie, Jésus s'efface du point de vue de l'autorité. Et il nous lave les pieds. C'est-à-dire qu'il rend pur notre zèle intérieur. Quiconque n'a plus autorité, c'est parce qu'il n'est pas bouillonnant de ferveur dans son zèle. Alors du coup, il perd l'autorité. Un père vis-à-vis de son enfant, par exemple, s'il n'est pas bouillonnant de ferveur et de zèle vis-à-vis de son fils, il perd son autorité. Et Jésus lave les pieds de ses disciples à cause de ça. Vous voyez, Marie-Madeleine embrasse les pieds ensanglantés de Jésus sur la croix. Pourquoi ? Parce que il a lavé les pieds de ses disciples, elle embrasse les pieds. C'est l'action de grâce au lavement des pieds, il s'est effacé. Et sa ferveur a consisté précisément à rendre pur, et donc pas du tout honteux, notre zèle intérieur, notre ferveur. Vous voyez ? À ne pas renoncer à notre autorité. Et notre autorité, l'autorité initiale de l'homme, c'est cette responsabilité que nous avons vis-à-vis de la création, vis-à-vis de l'univers. C'est avec une très grande ferveur, un zèle pur et bouillonnant, que nous pouvons, grâce à Jésus qui nous lave les pieds, retrouver autorité, cette autorité initiale que nous avons dans l'un sur l'univers. Ah, on n'aime pas sortir dehors la nuit. Pourtant, ah, j'avais un ermite chez moi pendant un mois, là. Il m'a raconté, je suis sorti la nuit. Je suis sorti la nuit. Je me promenais comme ça sur le chemin de la montagne. Puis j'entends des bruissements dans les herbes. C'était ça devait être des mulots peut-être. Ça bruissait. Ils étaient là, à droite, à gauche. Plus loin, c'était des lapins. Ça bruissait. Et pourtant, il était 10h du soir, 11h du soir. Tous les animaux étaient vivants là-dedans. Il y avait un affolement, je ne sais pas, il y avait quelque chose. On sentait un affolement. C'était pas moi qui les affolais, je passais au milieu de tout ça. Et puis au bout d'un certain temps, il y avait la nuit, et puis au bout d'un certain temps, il sent un truc plus gros quand même, un peu plus loin, 500 mètres plus loin, 300 mètres plus loin. Mais il y avait les oiseaux aussi, c'est bizarre. Hein. Il y avait une bête plus grosse, hein, dans les forêts. Alors, et tiens, c'est ça, c'est peut-être des sangliers. On n'a pas peur des sangliers parce qu'un sanglier, tu fais, je suis là, puis tu fais. La voix de l'homme, le sanglier n'aime pas ça. Lui, il n'a pas dit je suis là. Il s'est approché. Avec son petit bâton de bambou, il s'est approché. Il essaie de voir dans la nuit. Alors, la grosse bête est partie des grands, c'est des jeunes et grands comme ça, c'est parti un petit peu plus loin. Elle s'est approchée, elle s'est mise contre un muret. Elle s'est approchée jusqu'à être à 20 mètres, 25 mètres. Et là, il a vu cette masse énorme, enfin, sombre. Et comme il s'approchait, cette masse a commencé à rugir. Il a dit vraiment, j'aurais jamais cru qu'il y avait un lion ici. Je sais pas si c'est lui, c'est dans sa tête. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, un rugissement. Il est retourné tranquille. Et il m'a dit, plus je m'éloignais, plus le rugissement se faisait fort. Curieux, hein. Deux mois avant, il y avait des pompiers, c'est-à-dire qui étaient dans la montagne, qui étaient chez moi, et qui ont dit, on a vu une bête, qui est bizarre, on n'a jamais vu ça. Et ça, c'est pourtant, ils connaissent les bêtes dans nos montagnes. C'est énorme, elle avait une tête bizarre, une crinière, on pourrait dire que c'est un lion, mais c'est tellement impossible qu'il y ait un lion, mais vraiment bizarre. Vous voyez, c'est bizarre, la nuit, on n'aime pas la nuit. Parce que dans la nuit, il y a la présence de cette espèce d'éclatement où on n'est pas uni par l'homme. L'homme n'unit pas la création, vous voyez. L'homme n'a pas sa place et du coup, il y a une dispersion de la nature, il y a une dispersion du monde animal. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a une espèce de guerre entre les vivants. Et c'est pour ça que Jésus, il a voulu, puisque nous avons abdiqué notre autorité, il s'est effacé dans son autorité. Il a lavé les pieds de ses disciples. C'est à cause de ça. Et voir que Jésus... Vous comprenez que Jésus avec nous, comment est-ce que vous allez dire, mais comment je vais faire, moi il ne se met pas à genoux devant moi pour me laver mes pieds. Il dit, mais justement, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a une telle difficulté pour nous? Moi, ça me dit rien du tout de demander à Jésus de revenir se mettre à genoux comme ça, mystiquement. Et me laver les pieds, ça me dit rien du tout. Je trouve ça débile. Pourquoi il y a ce phénomène de défense vis-à-vis de la rédemption? S'il lavait ses pieds, ses disciples, je fais partie des disciples, oui ou non? J'avais mal. Un peu plus. Oui ou non? Alors, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Voyez, face à l'autorité temporelle, il s'est effacé. Il y a un autre effacement qui s'est effacé aussi par rapport au, comment dire, non pas, par rapport à la communauté, vous voyez. Il ne faut pas oublier qu'il a accepté, il a livré sa vie à ceux qui avaient autorité religieuse en Israël. Donc, il a effacé son autorité, c'est lui qui a donné autorité sur le Sinaï aux 70 d'Israël, avec Moïse, Aaron, et puis les deux autres là qui avaient accompagné, c'était 74. Ouais, sur la fameuse mer de cristal. C'était des pavés de saphir. Il y avait les 70 sages d'Israël, Moïse, Aaron, et puis 75. Bon, formidable ça. C'est Jésus qui avait toute autorité et qui a autorité sur eux. Eh bien, quand il est là devant le Sanhédrin, il efface, c'est vrai, cette extraordinaire autorité religieuse de Jésus. Il s'efface dans son autorité religieuse et il
s'efface devant le pouvoir religieux, devant la jalousie du Sanhédrin. Exactement comme nous, l'Église, aujourd'hui, nous nous effaçons devant la synarchie du Sanhédrin nouveau, des Illuminati. Le nouveau Sanhédrin. L'Église s'efface. L'Église, elle est au service de l'humanité. Elle accepte d'abdiquer son autorité, même sur le plan religieux. Elle est au service de la grâce. Elle ne cherche pas à dominer. Elle ne cherche pas à être synarchiste. L'Église ne veut pas qu'il y ait une théocratie. Ce n'est pas l'islam. On ne veut pas de ça. Même au Moyen-Âge, elle n'en voulait pas. Contrairement à ce qu'on dit. C'est une contre-vérité invraisemblable, historiquement. Mais n'empêche que peu importe, laissons tomber ces histoires d'histoire. Lorsque Jésus, donc vous comprenez, il s'est effacé et il a donné un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme moi, je vous ai aimé. Et en livrant sa vie, en ne voulant pas dominer. Mais cet effacement-là est magnifique, il est très grand. Voilà pour ce qui est de notre réconciliation avec l'éclatement de notre âme. Notre vie intérieure, si elle est éclatée, c'est parce que on ne renonce pas au pouvoir de l'âme. Le contraire, vous voyez bien que le contraire, c'est le nouvel âge. Le nouvel âge, c'est je retrouve en moi l'âme, pour retrouver en moi la source dans l'âme de la lumière et la source de tous les pouvoirs de mon âme. Donc, c'est le contraire de renoncer à son autorité religieuse du point de vue de l'âme. Et c'est la recherche, au fond, d'un certain nombre de pouvoirs de l'âme, pouvoirs perdus. Retrouver ces pouvoirs perdus. Puisque je les ai perdus, j'ai le droit de les retrouver. Donc j'emploie toutes les méthodes, tous les moyens, pour retrouver le pouvoir perdu de l'âme. Sans passer par l'adoration. Bien entendu. Par moi-même. Sans passer par la rédemption. Bien entendu. Puisque c'est moi qui ai ce pouvoir. Et que Dieu est en moi. Ou que je suis Dieu. Selon les... Et voyez, regardez comment Jésus reprend cet éclatement de l'âme qui fait qu'effectivement, on a fait des choix. Notre choix de vie, notre âme était tellement marquée par l'image-ressemblance de Dieu et par la vie divine, par cette vie, cette source d'animation éternelle et en même temps temporelle, elle a fait un choix. On a fait un choix, vous le savez bien, c'est ce qu'on avait vu. On peut faire un choix, finalement, puisqu'il n'est plus là, j'y renonce, je ne prends plus que la vie humaine. Vous voyez, ce choix de vie humaine. On peut faire aussi un choix, déjà dans l'enfance, la toute petite enfance embryonnaire, on peut avoir fait des choix de vie surnaturelle en disant, j'ai perdu la vie divine, je choisis de la retrouver. C'est un choix de la sainteté. Ou alors, je choisis de vivre uniquement humainement, et puis c'est tout. Vous voyez, cet éclatement de l'un dans les choix de vie. Il y a aussi des choix de mort que l'on fait. Cet éclatement de l'un au niveau de l'âme a quelque chose de très très important, de très fort. Vous voyez. C'est pour ça qu'il faut savoir renoncer à ce pouvoir de l'âme. Dans ma vie intérieure, je suis marqué par le péché. Et donc, je dois prendre Jésus qui s'efface, qui lui renonce à sa vie intérieure, il renonce, il s'efface dans sa vie intérieure, vous voyez bien, il donne sa vie. Et il le dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Celui qui veut aimer, il donne sa vie. Il donne son âme.
Il renonce à sa vie. Il donne sa vie. Il ne fait pas de sa vie un droit pour retrouver un pouvoir perdu. Elle a renoncé à ce pouvoir intérieur. Et sentir que Jésus y a renoncé, il y renonce en nous, et à ce moment-là, on retrouve le pouvoir spirituel, qui est le pouvoir de donner sa vie, qui est le pouvoir d'aimer, parce que notre vie, elle est là pour qu'on puisse aimer, c'est tout. Pour qu'on puisse retrouver ce don initial de la vie, et qu'on puisse faire de cette vie un don. Le face à la communauté, l'effacement de Jésus a été si loin, si vous voulez, que il meurt sur la croix avant qu'on le dépose dans le sépulcre, après qu'il ait donné sa vie. Il y a un nouvel effacement, c'est le Verbe de Dieu en lui-même, accepte que son corps cadavérique soit percé par la lance. De manière que il y ait un nouvel effacement de Jésus. Jésus s'est effacé lui-même de son corps pour que son corps puisse donner, redonner le Verbe de Dieu à tous ses membres. Donc, vous voyez, il a non seulement livré sa vie, mais il s'est effacé en sa vie jusqu'en dehors de son corps, de manière à ce qu'il y ait, de manière à ce que son corps puisse vivifier blessure du cœur, vivifier tout le corps communautaire, tous les corps humains, tous les cœurs humains, toute la communauté humaine. La communauté humaine, elle est divisée. Nous sommes coupés à cause de nos choix initiaux, à cause de nos peurs, à cause de nos angoisses, à cause de nos blessures, à cause aussi du syndrome des atavismes paternels et maternels. Nous sommes coupés des autres, nous sommes coupés de la famille, nous sommes coupés de notre père, notre papa, nous sommes coupés de notre maman, nous sommes coupés de notre époux, nous sommes coupés de notre épouse, nous sommes coupés. Vous voyez, c'est cette coupure du corps mystique de l'humanité, du corps mystique cellulaire fondamental de l'humanité. On s'est coupé de notre filiation, on s'est coupé de cette paternité aussi. On se coupe de la maternité, dans un sens comme dans l'autre. L'avortement d'un côté, le meurtre de la mère de l'autre. Parce que maintenant, ça va être à la mode, le meurtre de la mère, le meurtre du père, c'est déjà périmé. Eh bien, non, Jésus, lui, dans sa mort, il ouvre son cœur. Il devient notre Père. Il s'efface dans son humanité, voyez, pour devenir notre Père dans la communauté. Il devient le Père du corps mystique du Christ. Il devient l'époux du corps mystique du Christ. Il devient la mère et l'engendrement, la naissance du corps mystique du Christ. Les trois ensemble. Le cœur est blessé, il s'est ouvert. L'eau, le sang, l'Esprit Saint qui sort du cœur. C'est un effacement inouï, celui-là. C'est l'effacement le plus fort. C'est l'effacement des retrouvailles avec l'enfance absolue de tous. Retrouver notre lien avec cette enfance retrouvée de tous dans notre cœur. Et pour ça, il faut vivre de la blessure du cœur, cet effacement de Jésus. Qui nous permet de nous reprendre dans les pardons que nous n'avons pas donnés à notre papa, notre maman, notre père, notre mère. Les trahisons de nous-mêmes par rapport à la paternité, à la maternité, par rapport à notre identité. C'est ce que nous avons vu, du reste, avec un nom que ça. La blessure du cœur ici joue un rôle d'une importance si grande. Prendre, voir, saisir, toucher, embrasser, s'abreuver à la blessure du cœur de Jésus. Dans sa résurrection, la blessure du cœur de Jésus est là, à cause de la résurrection. Cette blessure du cœur, d'avant sa résurrection, est là. Elle est là dans notre bouche. Elle est là dans notre cœur. Elle est là dans nos mains. Et nous l'embrassons, nous l'étreignons, nous y pénétrons, nous en imbibons.
Nous en sommes la source, le lieu, le temple. Nous portons notre attention sur la blessure du cœur de Jésus pour retrouver l'attention à l'un. Cette unité totale avec nos parents, et avec toute l'humanité qui nous a engendrés. Avec toute la communauté. Avec tous nos frères qu'on a tellement de mal à pardonner. Je n'ai pas été reconnu. On ne me reconnaît pas. Personne ne s'intéresse à moi dans la communauté, dans la fratrie. S'il y a des gens qui rentrent au noviciat, c'est dans le monde religieux. Puis, ça fait 10 ans que je pratique les vertus héroïques dans cette communauté. Et personne ne le reconnaît dans la communauté. Attends, t'es rentré pour qu'on reconnaisse tes vertus. Personne ne me reconnaît. Et puis on me... C'est toi qui dis qu'on te... Non, on est tout entier les uns avec les autres.